Radio Prague, les informations.
Le gouvernement soutient la reconnaissance officielle de la résistance anticommuniste. Début de la cinquième édition du Comics Fest et passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Le gouvernement tchèque a fait savoir qu'il était prêt à soutenir une proposition visant à accorder le statut de vétéran de guerre aux résistants contre le régime communiste. Une proposition du Sénat dans ce sens sera discutée mercredi à la Chambre haute. Pour le gouvernement, cette reconnaissance est nécessaire. Cette prise de position a été critiquée par la gauche. La décision finale concernant ce statut de vétéran de guerre sera prise au Parlement. Le président Václav Klaus se rendra dimanche au Koweït pour une visite de travail de 3 jours. Il sera reçu par l'émir du Koweït, rencontrera des représentants du gouvernement et du Parlement. L'objectif de cette visite de travail est de donner un coup de pouce au commerce et aux possibilités d'investissement qui ont décliné ces dernières années. La dernière visite d'État d'un représentant officiel tchèque remonte à celle du président Havel en 2001. Les recherches se poursuivent pour retrouver la petite fille de 9 ans, Anna Janátková, disparue à Prague depuis le 13 octobre. Une équipe d'une centaine d'enquêteurs a de nouveau passé au peigne fin vendredi le quartier de Troja où elle a disparu. Depuis que la fillette n'est pas revenue de l'école, des dizaines d'enquêteurs et soldats ont mené des recherches pour l'heure infructueuses. À la fin de la semaine dernière, un homme de 41 ans a été arrêté pour être finalement relâché par un juge. C'est ce samedi qu'a commencé la cinquième édition du festival de la bande dessinée Comics Fest. Si la République tchèque n'est de loin pas un pays de bande dessinée, au même titre que la France ou la Belgique, les temps changent et de nombreuses maisons d'édition publient de plus en plus d'albums. Comics Fest participe également à la promotion de la BD et cette année, ils accueillent notamment le français Emmanuel Guibert à l'occasion de la parution en tchèque du 3e tome de La Guerre d'Alan. Cet ouvrage retrace les souvenirs d'un ancien GI qui, à la fin de la guerre, avec son unité, va traverser l'Allemagne dévastée et ira jusqu'en Tchécoslovaquie en mission semi-secrète d'éclaireur. Il est également le dessinateur de la très belle trilogie Le Photographe, affaire à suivre sur Radio Prague, évidemment. Le pavillon tchèque de l'exposition universelle de Shanghai a été récompensé par une médaille d'argent pour sa créativité. Cette distinction lui a été décernée par le Bureau international des expositions qui siège à Paris. C'est la Slovénie qui est arrivée première dans la catégorie. Le pavillon tchèque pourrait dépasser les 8,5 millions de visiteurs. L'exposition universelle de Shanghai s'achève ce dimanche et le pavillon tchèque a d'ores et déjà été racheté par une société chinoise pour un total de 30 millions de couronnes. Et puis, dans la nuit de samedi à dimanche, vous le savez peut-être, l'Europe et donc la République tchèque changent d'heure et passent à l'heure d'hiver pour une durée de 5 mois. À 3h du matin, heure locale, je dis bien heure locale, les Tchèques aussi reculeront leurs horloges d'une heure. Ce changement d'heure va de pair avec une nouvelle grille horaire des émissions internationales de Radio Prague. Vous pourrez la découvrir en écoutant les indicatifs de Radio Prague avant les émissions en français ou bien en consultant directement notre site internet. Vous le connaissez, c'est le www.radio.cz. Encore un mot en sport, le tchèque Bratislav Dolejší est décédé jeudi à l'âge de 82 ans à Los Angeles. Gardien de but de l'équipe de football de Tchécoslovaquie lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède, il avait porté les couleurs de l'UDA Prague et du Dynamo Prague. On finit par un mot de météo dimanche, jour de fête des Štěpánka. Le ciel continuera d'être ensoleillé sur une grande partie du pays. Les températures seront douces avec entre 12 et 16 degrés pour les maximales, pardon. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information présenté pour vous par Anna Kubishta, mais restez avec nous. Tout de suite, ce sera la rubrique littéraire suivie du check du bout de la langue et moi je vous retrouve pour ma part dans le courrier des auditeurs. À tout de suite.
Rencontre littéraire. Être propriétaire d'une villa ou d'une maison familiale est un des rêves de notre civilisation. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de vivre dans une charmante maison au milieu d'un jardin ? Aujourd'hui, réaliser un tel rêve devient de plus en plus facile, mais peut-on encore considérer les innombrables maisons poussant comme des champignons autour des grandes villes tchèques comme la matérialisation d'un rêve ? Ces nouveaux quartiers résidentiels uniformisés n'apportent-ils pas plutôt une grande désillusion ? Où sont ces villas de rêve, fierté de leurs propriétaires et de leurs architectes ? Vous trouverez la réponse à cette question dans une série de 15 livres parus entre 2004 et 2010 intitulée « Les villas célèbres ». La série a commencé en juin 2004 par la publication des célèbres villas de Prague. Les auteurs ont réuni dans leurs livres les informations et la documentation verbale et photographique sur 63 maisons familiales et villas pragoises conçues et réalisées par les meilleurs architectes de l'époque, parmi lesquels Jan Kotěra, Adolf Loos, Josef Gočár, Pavel Janák, Otakar Novotný, Jan Kaplický et autres. Depuis, chaque année ou presque, sont sortis deux nouveaux maillons de la longue série qui devait former une véritable encyclopédie des plus belles maisons individuelles ayant été construites en Bohême, en Moravie et en Silésie depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Chaque livre a été consacré à une région. Plus de 250 spécialistes, historiens d'art et architectes ont collaboré à ce projet de grande envergure, placé sous le haut patronage de l'épouse du président de la République, Livia Klausová. Ils ont formé 15 équipes qui ont écrit 15 livres. Au début de leur travail, ils se sont bien sûr posé la question fondamentale. Qu'est-ce qu'une villa? Réponse avec l'auteur du projet, Oldřich Janota.
Tak úplně prehistorii to má v římských vilách a v paladiovských vilách v Itálii a tak dále, protože to byla venkovská sídla vlastně.
La préhistoire de ce genre de maison, ce sont les villas de la Rome antique et puis celles construites par Palladio en Italie. C'était des maisons de campagne. À Prague et dans d'autres villes, après la démolition des remparts, les riches citadins ont commencé à construire des maisons dans la banlieue. C'était une espèce de petit château. Par exemple, le château baroque de Troja, près de Prague, est une villa à l'italienne. C'était donc des gens plutôt riches, des industriels, etc. Puis après 1918, sous la Première République tchèque, s'y sont jointes les couches moyennes de la population, des enseignants, des médecins, des juristes et même des gens simples.
Eldřich Janota a de rappeler qu'aujourd'hui, 40% de la population tchèque loge dans des maisons familiales et que ce sont également des villas souvent entourées de jardins. La série Les Villas Célèbres illustre l'évolution de l'architecture tchèque au cours des deux siècles. Cela commence par de beaux spécimens de l'architecture empire, comme par exemple le pavillon lacustre dans le domaine des châteaux de Lednice et de Valtice en Moravie du Sud. S'ensuivent les villas néo-gothiques, néo-renaissance et néo-baroques de la seconde moitié du XIXe siècle que les architectes, marqués par le romantisme et la nostalgie, savaient très bien insérer dans les parcs et les paysages. Marquée par l'art nouveau, la période de la fin du XIXe et du début du XXe siècle constitue un autre grand chapitre de l'évolution des maisons familiales tchèques. Toute une pléiade d'architectes plus ou moins influencés par l'art nouveau français ou la sécession viennoise a créé de nombreuses maisons aux lignes sinueuses et élégantes. C'est à cette époque que s'impose le grand architecte tchèque Jan Kotěra, qui enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Prague et contribue à la formation de toute une génération d'architectes modernes. Ces nouveaux venus apporteront les nouveaux styles, le cubisme, le rondo-cubisme et finalement le fonctionnalisme. C'est avec ce style dépouillé, véritable symbole de la modernité, que l'architecte tchèque du XXe siècle atteint son apogée. Des industriels, des propriétaires fonciers, des hommes politiques et des artistes se font construire des villas dans ces styles. Parmi eux figurent les écrivains Karel Čapek, Vladimir Vančura, les peintres Václav Špála et Josef Čapek, les sculpteurs František Bílek et Stanislav Sucharda, le cinéaste Martin Fritsch. Tous laisseront l'empreinte de leur personnalité dans ces maisons qui figureront parmi les villas célèbres de République tchèque. Le 15e et dernier volume de la série Les Villas Célèbres est sorti en septembre 2010. À cette occasion, a aussi été organisée dans la Bibliothèque nationale technique de Prague une exposition intitulée Les Villas Célèbres de Bohême, de Moravie et de Silésie. L'auteur du projet, Oldřich Janota, résume.
Těch knih je 15, to znamená každý kraj těch měst.
La série compte 15 livres. C'est donc un livre pour chaque région de République tchèque. Les villas sont situées dans près de 250 villes et communes. Pour cette exposition, ont été choisies, sur un ensemble de presque 800 maisons, les 120 villas les plus intéressantes situées dans 56 villes et communes, Prague, Brno, Olomouc, Prostějov, mais aussi dans des villes de bien moindre importance comme Krucenburg et d'autres.
Ceux qui ont préparé cette exposition n'ont pas voulu se limiter à des photos et à des documents écrits. Le commissaire Ladislav Zygmunt a voulu donner à l'exposition une troisième dimension.
Nous avons cherché à présenter dans cette exposition, dont l'espace est limité, les 120 villas les plus intéressantes, ce qui n'était pas une tâche facile. Et pour ne pas en faire seulement une présentation bidimensionnelle de l'architecture, nous avons aussi misé sur des modèles et cherché des objets et des meubles illustrant l'évolution du design tout au long du XXe siècle. Nous commençons par le mobilier en bois courbé, en passant par le mobilier métallique, celui des années 1980, jusqu'à la période actuelle.
Évidemment, les auteurs de l'exposition ont eu l'embarras du choix. Ils ont été obligés de faire un tri et de laisser de côté beaucoup de maisons extrêmement intéressantes. Ladislav Zygmunt explique quels ont été les critères décisifs dans leur choix.
Les critères ont été nombreux. Pour devenir célèbre, une villa ne doit pas nécessairement être un chef-d'œuvre architectural, comme c'est par exemple le cas de la villa Tugendhat à Brno ou de la villa Müller à Prague. Les villas choisies ont été par exemple celles qui ont été habitées par des personnalités importantes, qui ont été le théâtre d'événements culturels, sociaux ou historiques, ou qui ont joué un rôle important dans la région où elles se trouvent.
Le visiteur peut donc suivre l'évolution architecturale des maisons individuelles sur le territoire tchèque au cours des deux derniers siècles. Les auteurs y ont aussi ajouté des projets relativement récents, comme la villa pragoise conçue par l'architecte Emil Psikril pour la réalisatrice de cinéma Věra Chytilová, ou une maison créée par l'architecte tchéco-britannique Jan Kaplický, auteur du projet très controversé de la Bibliothèque nationale tchèque. Le visiteur voit les maisons sur des photos historiques et aussi sur des photos récentes. Il peut constater que certaines villas sont restaurées avec beaucoup de soin et de sensibilité pour leur style original. Il y en a cependant qui sont défigurées par une restauration bâclée et même d'autres qui n'ont pas été restaurées du tout et dont le délabrement devient inquiétant. Si leurs propriétaires ne font rien, dans quelques années les dégâts seront irréparables et ces joyaux architecturaux seront perdus. Un des objectifs de l'exposition et de toute la série des 15 livres sur les villas tchèques et donc de sauver ces maisons exceptionnelles pour les générations futures. Je vous ai présenté la série de 15 livres parus entre 2004 et 2010 intitulée « Les villas célèbres ». Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Dasha Tilova, réalisation technique, et à Pavel Kahoun, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Larguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Comme promis, nous allons poursuivre et achever notre série consacrée aux quartiers de Prague et aux origines de leurs appellations. Dans la dernière émission, nous nous étions rendus dans le quartier des coupeurs de gorge,
Hrdlořezy,
ainsi que dans celui du géologue et paléontologue français Joachim Barrande.
Barrandov.
Cette fois, nous allons successivement vous emmener dans les quartiers du Diable, de la Guerre de Troie ou encore des Chasseurs de Mauvais Esprits. Commençons donc d'abord par
Davice,
un quartier situé à proximité du centre-ville de
Hradčany,
le quartier du château de Prague, mais aussi de l'aéroport de Prague.
Ruzině.
Selon la version la plus répandue, le nom de
Davice
proviendrait d'une transformation ou d'une déformation de l'appellation originelle
Dehnice.
Cette appellation caractérisait la production locale qui existait autrefois de goudron.
Dehet.
Mais il existe une autre version, plus poétique et romanesque, selon laquelle
Dehnice
serait un dérivé du nom personnel de
Dehna,
qui en vieux tchèque désignait un esprit malin, le diable ou un démon. Ce nom était donné, semble-t-il, aux habitants des lieux, car ils menaçaient leurs voisins et les passants. Mais il n'existe aucun document écrit ou preuve historique confirmant la véracité de cette version, mais on le sait, Prague est une ville de légende, alors accommodons-nous de celle-ci. Autre quartier résidentiel de la capitale, apprécié pour son calme relatif, sa verdure environnante et sa proximité avec le centre-ville,
Troja,
littéralement le quartier de Troie. C'est là-bas que se trouve notamment le très fréquenté zoo de Prague, le jardin botanique ou encore le château de
Troja, Trojský zámek.
Ce château justement, c'est lui qui nous intéresse le plus. En effet, ici, le quartier a adopté le nom qui avait d'abord été donné au château de style baroque construit dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il avait été baptisé de la sorte en raison de la décoration des intérieurs du bâtiment. On y trouve en effet de nombreux tableaux et motifs antiques, et notamment bien entendu des scènes de la légendaire guerre de Troie. Concernant l'ensemble du quartier actuel, il s'agissait à l'époque d'une petite commune qu'on appelait alors
Ovenet
ou
Ovenet.
Cette appellation tire son origine d'un mot de vieux slave,
Of,
qui en tchèque signifie
Beran,
soit bélier, un prince y possédant une bergerie.
Ovčinec.
Finalement,
Ovenet
devint
Troja
au XVIIIe siècle, adoptant ainsi le nom du bâtiment le plus représentatif de l'endroit. Autre quartier au nom intéressant,
Strašinice.
Intéressant parce que la racine
Straš
est la même que celle du verbe
Strašit,
qui signifie effrayer, hanter, terrifier. On le sait cependant, les apparences sont parfois trompeuses. La question est donc de savoir si ce quartier, dans lequel se trouve quand même le plus grand crématorium en Europe, est bien un quartier de la peur. Certaines légendes évoquent des fantômes qui auraient régné autour des étangs et des marais qui existaient autrefois. En réalité, l'existence de ces fantômes n'a jamais pu être confirmée. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'appellation
Strašnice
servait à désigner le village des gens appelés
Strašen, Vasilidi Strašnových.
Ce nom de
Strašen
devait permettre à la personne qui le portait de chasser, d'éloigner, ou plus précisément de dissuader, effaroucher, bref de faire fuir en effrayant
Odstrašovat
les mauvais esprits, les démons. Enfin, le dernier quartier pragois dont le nom mérite que l'on s'arrête dessus est le quartier de
Libouche.
Les origines de ce nom sont en effet quelque peu curieuses. Très logiquement, on pourrait penser qu'il est un dérivé du nom de la princesse
Libouche,
l'ancêtre mythique de la dynastie des Přemyslides et du peuple tchèque qui, selon la légende, fonda Prague au 8e siècle. Il s'agit là de ce que l'on pourrait appeler la grande histoire de Prague et des pays tchèques, mais la petite histoire du quartier de
Libouche
relève, elle, plus de l'anecdote. En fait, selon une autre légende, les lieux à l'époque de la princesse
Libouche
étaient bien connus en raison d'un élevage réputé d'oies. Or, l'éleveur d'oies en question s'appelait, semble-t-il,
Libouche.
Vous l'aurez donc compris, le nom du quartier
Libouche
n'est donc pas un dérivé du nom de la princesse
Libouche,
mais de l'éleveur d'oies
Libouche.
Et c'est sur cette ultime légende que s'achève ce tchèque du bout de la langue, et avec lui notre série consacrée aux origines des noms de certains quartiers pragois. Dès la semaine prochaine, nous vous inviterons à d'autres découvertes. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Courrier des auditeurs. On commence par une bonne nouvelle pour les amoureux des belles lettres et notamment de la littérature tchèque. Romaric Vinet-Kemmerer des éditions Galahad en France nous annonce la parution d'un nouveau roman tchèque.
Je vous adresse ce message pour vous signaler l'une de nos parutions récentes. Les éditions Galahad viennent en effet de publier « Elle avait les yeux verts », le roman d'Arnošt Lustig, l'un des auteurs tchèques majeurs de l'époque contemporaine et l'une des figures centrales de la vie culturelle tchèque. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce texte bouleversant et que vous souhaiterez le faire découvrir autour de vous.
Avis donc à tous les lecteurs et tous les tchécophiles en manque de lecture. Je rappelle pour mémoire que de nombreux autres auteurs tchèques sont traduits en français, tels que Jakim Topol, Václav Havel évidemment, Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal, Květa Legátová, Petra Hulová, Karel Čapek et bien d'autres encore. Vous pouvez découvrir ces auteurs évidemment sur notre site internet au www.radio.cz. Autre courriel reçu ces derniers temps, celui de Patrick Ranti.
Dobrý den, j'habite à Prague depuis quelques mois et je suis un lecteur attentif de chacun de vos articles par fil RSS. Or, à l'occasion d'une visite à Vyšehrad, j'ai remarqué une tombe au nom de Julien Achard, apparemment commandant de la Légion tchèque en France en 14-18. Je ne parle pas très bien tchèque, je n'ai pas trouvé d'article sur votre site, ai-je mal navigué? Je ne trouve d'ailleurs pas d'infos sur Internet en général non plus. Merci beaucoup et bravo pour tout votre travail hyper intéressant. Ahoy.
Tout d'abord, merci beaucoup Patrick pour votre soutien et vos encouragements. Il est toujours très important pour nous de savoir ce que pensent les auditeurs, mais également les lecteurs, ou plutôt dans votre cas les internautes, car Radio Prague c'est certes sur onde courte, mais c'est aussi sur la toile que ça se passe. Alors pour répondre à votre question, je connais en effet cette tombe, je suis tombée dessus par hasard, comme vous, en me baladant à Vyšehrad, et elle m'a aussi intriguée. Mais comme vous, je suis bredouille dans mes recherches. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que la Légion tchèque, ou tchéco-slovaque, était un corps d'armée formé de volontaires qui ont combattu du côté des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont d'ailleurs été la base sur laquelle a été ensuite construite, formée l'armée tchécoslovaque une fois l'État créé en 1918. Et la Légion, ou plutôt les légions, puisqu'il y a eu des légions sur plusieurs fronts, ont été un argument en faveur de l'émancipation des Tchèques et des Slovaques de l'Autriche-Hongrie et de la création d'un nouvel État. Alors pourquoi un Français à la tête de cette légion? Eh bien, très probablement parce qu'elle n'était justement qu'une légion et non pas une armée officielle d'un pays existant qui aurait évidemment exigé un commandement tchèque ou slovaque. Combattant pour le compte des alliés, il fallait donc un commandement allié à la tête de ce groupe d'hommes. Et je vous signale à cet égard que si l'histoire des légions tchécoslovaques vous intéresse, eh bien un auteur de BD français, Chris, et le dessinateur Jean-Denis Pandanx préparent plusieurs tomes d'une série intitulée Svoboda et qui racontera l'épopée incroyable de la légion tchécoslovaque en Russie, sortie prévue pour le printemps 2011. Vous qui êtes un internaute fidèle, vous saurez retrouver l'interview de Chris dans nos archives. Sachez encore que l'histoire militaire franco-tchèque ne s'arrête pas là. Après la création de l'État tchécoslovaque le 28 octobre 1918, vous le savez si vous êtes à Prague, jeudi était justement férié, une mission militaire française a été créée à Prague, chargée de former la nouvelle armée tchécoslovaque. Des noms de personnalités importantes s'attachent à cette mission, comme le général Pelé notamment, mais aussi et surtout le général Fauché. Quelques jours avant les accords de Munich, le général Eugène Fauché, en poste à Prague, envoyait sa démission et se mettait à la disposition de l'armée tchécoslovaque, outré par l'accord franco-britannique du 19 septembre et par les pressions franco-britanniques exercées sur les Tchèques. Un homme de courage, comme il y en a eu peu au moment de la signature de ces accords de la honte. Je referme là cette page historique en signalant encore, Patrick Ranti, que vous animez un blog, Impressions de Prague, que vous agrémentez de photos de Prague et de la République tchèque, ainsi que de vos commentaires. Dans notre boîte aux lettres, nous avons aussi reçu de nombreux rapports d'écoute. Merci à Gilles Gauthier du Radio Club du Perche pour les siens et pour sa sympathique carte postale, à Bernard Martou, à Maurice Yon de Reims, à qui nous souhaitons également un très bel automne, à Patrick Tridon de la Garenne Colombe, à Didier Vasseur d'Amiens, à Éric Bilin de Coudekerque et enfin à Myriam Sabine Amran d'Algérie. C'est ainsi que s'achève ce courrier des auditeurs. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Ahoy.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.